deux, un, deux. Et deux mesures piano, comme écho. Encore une fois.
On se pose tout de suite la question, comment une machine peut faire de l'art? Il faut évidemment une conscience humaine pour faire de l'art. Enfin, je crois, je sais plus du coup. Je suis troublé par cette annonce. Des machines vont imaginer à notre place, c'est incroyable. Qui aurait cru?
Qui l'eût cru? La voix et les machines et comment nous écoutons la musique à travers ces machines. Il sera question de tout cela ce soir, émission La Fête du Stream dans Continent Musique avec mes invités Vald et Sofian Fanen, le rappeur Vald. Pour commencer, Valentin Ledu, il a 25 ans, son nouvel album Xe, sorti le 2 février, est déjà disque d'or certifié, ça c'est un chiffre du Snap, et il cumule des millions de vues sur internet. On l'entendra tout à l'heure, Vald, pour un entretien en PF, en pleine forme. Est-ce que le rap est la musique préférée des Français, comme l'écrivait un rien provoquant le patron de Skyrock, Laurent Bouneau, à regarder les chiffres et les prix, hein, Orelsan, PNL, Maître Gims, Black M, Booba et Vald, tous ces rappeurs français dominent les classements du streaming, remplissent les salles de concert comme les playlists. Comment est-on passé de la France du top 50, qui écoutait des disques physiques, à celle de la musique dématérialisée? Pour en parler avec nous ce soir, Sofian Fanen, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste pour Les Jours, le site d'information qui raconte l'information en série. Je vous ai emprunté ce titre, La Fête du Stream, puisque c'est un sujet que vous suivez depuis longtemps pour Les Jours. Et puis, vous avez publié un livre passionnant, Boulevard du Stream, du MP3 à 10h, La Musique Libérée, aux éditions Castor Musique. On va commencer par la musique et par un de vos choix, c'est Damso.
Demandez pas ce que je fais dans la vie, si c'est noir vous serez pris de panique. Quelque part loin de toute compagnie, bas très faible m'a fait perdre beaucoup d'amis. Me serre pas la main, fais-moi un vie. J'attends la mort comme en guette ses manies. Baisse là c'est tout sinon elle fera des manies. Elle manquera de respect à ta famille. Une seule erreur et t'as plus de followers. Donc je fais ce que j'aime, non pas ce qu'on me dit. Je suis toujours debout, tombé de lui. Vu du ciel l'enfer est comme le paradis. Crève dans ta mère, t'auras pas un radis. C'est à peu près ce que le daron m'a dit. Heureusement gros culs ont su consoler. De leur touche là je me suis empoisonné. J'ai picolé, j'ai bu oui. J'perds la raison à cause de mes torts. C'est ça que ça fait toujours bosser la nuit. J'suis mal de trop, j'fais plus de sport. C'est pas très bon, m'a dit coach Ellie. Drogue dans la soute, à peine j'atterris. J'roule un doubi. Oh oui. Ils ne me veulent pas du bien. Ils ne me veulent pas du bien. Ils font bonhomme de neige. J'ai fait bonhomme de chemin. Ils ne me veulent pas du bien. Ils ne me veulent pas du bien. J'suis sorti de la dèche. Viens rosé comme j't'ai côté de chou. Fiancé à la vulgarité, j'ai renoncé à la précarité. J'ai mis mes chances dans le barrier, j'ai tiré sans jamais m'arrêter. Rose marque si veut qualité, grosse liasse la mentalité. Plus de sable dans le sablier, plus de place dans le paradis.
Mosaïque solitaire, Damso, c'était le grand absent de ses dernières victoires de la musique 2018. Son album Ipséité, édité chez 92i et Capitol, et donc Universal, est pourtant salué partout. Il s'est très bien vendu, certifié triple platine. Alors aujourd'hui, ça veut dire 300 000 exemplaires vendus. Autrefois, triple platine, c'était 900 000. Sofian Fanen, quand est-ce que ces indices de chiffres de vente ont été changés?
Ils ont été changés à l'époque où il n'y avait plus de vente de disques, tout simplement, au milieu des années 2000, début des années 2010, à l'époque du partage, du piratage, de l'offre légale où le téléchargement ne marchait pas trop. Il a fallu abaisser les seuils, en fait, jusqu'à ce qu'on retrouve des niveaux où en gros, on pouvait avoir des artistes qui avaient des disques d'or, voire de platine, parce qu'en fait, à un moment, il n'y avait plus aucun artiste qui atteignait le niveau de disque d'or. Là, en ce moment, on voit un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que quand on est un jeune rappeur à la mode, notamment, qu'on fait ou même une musique qui n'est pas rap, mais qui marche bien, on est 10 d'or ou de platine en une semaine. Donc là, il y a une réflexion en ce moment inverse pour relever les seuils.
C'est ce qu'on appelle parfois le méga fusionné, c'est-à-dire qu'on explique toutes les sources d'écoute ou de vente possibles.
Oui, en plus, voilà, aujourd'hui, on a ramené le streaming avec le CD et le téléchargement dans les mêmes classements. Mais du coup, c'est comme si on comptait des pommes et des poires ensemble. C'est très artificiel, il y a quand même beaucoup de doigts mouillés parce que une écoute en streaming ne vaut pas. Enfin, c'est pas la même chose qu'une écoute en CD. Acheter un CD et écouter même 10 morceaux de cet album en streaming, c'est pas la même chose, c'est pas la même écoute, c'est pas la même même pratique.
Pour préciser, l'écoute en streaming, puisqu'on va parler beaucoup de ça au cours de cette émission, c'est l'écoute en ligne avec la connexion et vous ne possédez pas le morceau. Hein, il ne s'agit pas d'acquérir le morceau.
Vous ne téléchargez pas.
Voilà, de l'écouter. C'est comme une sorte de jukebox virtuel sur lequel...
Il faut juste cliquer.
Vous vous rendez. On vient de l'entendre ici. Quelle place tient Damso pour vous dans le rap actuel ?
Il tient une place assez particulière, je trouve, et c'est pour ça que vous l'avez rappelé, c'est dommage qu'il était absent aux Victoires de la Musique, je trouve, tout simplement parce que c'est vraiment la rencontre du succès commercial du rap l'année dernière. Il a été l'un des grands acteurs, et en même temps, je trouve que artistiquement, culturellement, il est assez largement au-dessus de la mêlée en termes d'écriture, etc. C'est vraiment, enfin pour moi, ce disque-là, Ipséité, c'est dans 10-20 ans, ça sera un équivalent de Fantasy Militaire ou de ce genre de choses-là, un disque d'époque. Voilà. Et Damso, il c'est quelqu'un qui manipule en plus les réseaux sociaux, etc. Avec plus de prudence, plus de distance, il a un côté plus adulte et il est un peu à la jonction en plus des deux raps, deux grandes familles du rap, c'est-à-dire un rap plus street, ce qu'on appelle street. C'est-à-dire un rap plus de la rue, un peu plus dur, plus riche en gros mots, plus riche en choses un peu violentes comme ça, un peu sexistes aussi, et un rap plus CSP+, qui peut être représenté par l'homme pâle, voire même Orelsan, Damso, ils sont un petit peu comme ça, à cheval entre ces deux univers, et c'est pour ça qu'ils récupèrent aussi tout le succès, parce qu'ils attirent les deux publics en fait, et ils les fusionnent.
En quoi est-ce que, ça c'est presque votre thèse, Sofian Fennen, en quoi est-ce que les rappeurs sur les nouveaux yéyés du stream. J'adore cette idée.
Ouais, c'est un article que j'ai écrit pour Les Jours. En fait, c'est venu des accusations envers les rappeurs disant qu'ils trichent, qu'ils achètent des fausses lectures sur les plateformes de streaming.
On peut acheter du clic.
On peut acheter du clic, voilà. J'ai fait des enquêtes aussi là-dessus pour Les Jours. J'invite les auditeurs de France Culture à aller les lire, qui expliquent que effectivement, oui, il y a de la triche sur le streaming, comme il y a eu de la triche à l'époque du top 50, à l'époque du CD, même à l'époque du vinyle, de la cassette, etc. Il y avait des pratiques frauduleuses pour faire gonfler les ventes. Il y a eu plein d'histoires comme ça. Et comme on peut acheter des followers ou des faux amis sur Facebook ou des fausses vues sur YouTube, on peut acheter des clics, des lectures sur Spotify, sur Deezer, etc., qui sont des vraies fausses écoutes, en fait, qui sont des écoutes faites soit par des robots qui créent des comptes à la volée, par milliers, soit des gens qui vont pirater votre vrai compte et qui s'en sert pendant que vous dormez typiquement. Voilà, c'est des choses qui se font, mais par contre j'ai montré que c'était relativement marginal dans les classements et qu'en fin de compte ça on pouvait pas dire que les rappeurs trichent. Et du coup, pour étayer ça, en fait j'ai commencé à expliquer que en termes de volume d'écoute et d'impact sociétal et d'impact culturel, générationnel, on est dans un moment qui ressemble effectivement aux années 60 avec le surgissement des yéyés. C'est-à-dire, on avait à l'époque...
Je fais une parenthèse, juste, il faut expliquer que si on va sur le site Les Jours et qu'on voit les illustrations que vous avez mis, il y a des montages qui sont très très savoureux.
On a fait un montage d'Orelsan avec la perruque de Sheila.
Voilà, pour donner une idée.
On n'en est pas mécontents.
En quoi est-ce qu'ils se ressemblent ?
C'est-à-dire qu'on avait à l'époque une jeune génération en rupture avec l'ancienne, mais bon, ça c'est un classique, mais une jeune génération extrêmement qui avait envie d'une nouvelle musique. Cette musique est arrivée, c'était les années yéyé, c'est-à-dire une version variété, pop, sucrée du rock anglo-saxon, et qui rencontre également des nouveaux outils pour écouter de la musique, qui étaient à l'époque le 45 tours, format nouveau, et le transistor, format nouveau, qui permettait également aussi d'aller écouter de la musique n'importe où. C'était la première fois que les jeunes pouvaient sortir de leur maison et écouter autre chose que la musique de leurs parents, partout où ils voulaient. Et on a, de la même façon, aujourd'hui, une génération qui rencontre une musique, le rap ou les rap, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, et une nouvelle façon d'écouter, le streaming, et on se retrouve du coup avec à chaque fois une génération qui prend le pouvoir sur les écoutes. Et aujourd'hui, les 12-25 sont bien entendu les plus nombreux sur le streaming, même les 12-30 mécaniquement, c'est toujours les plus jeunes qui se saisissent d'une nouvelle façon d'écouter, et ils écoutent presque que du rap, en fait. Le SNEP, donc le syndicat des grosses maisons de disques, a communiqué ses chiffres il y a pas très longtemps. Le rap, ça a été 108 titres dans le top 200 en 2017. C'est énorme. Et ça a été 16 milliards de titres écoutés, un chiffre multiplié par 3 entre 2016 et 2017. On est vraiment dans une ultra-domination.
C'est vraiment la musique préférée des jeunes Français, ou en tout cas des jeunes internautes.
Oui, et alors la France a une grosse spécificité quand même dans cette histoire, c'est que la France a la deuxième scène rap du monde. Alors Damso est belge, mais il a beaucoup de succès en France. Voilà, historiquement, il y a une scène rap majeure en France, et économiquement, c'est aussi le deuxième marché du rap au monde. Et du coup, le rap a en fait conquis, s'installe comme une sorte de nouvelle variété. On voit Orelsan, il est vraiment dans cette jonction-là. Il est en même temps
quelqu'un comme... Il plaît aux parents et aux enfants.
Exactement.
7-0-70. Aïe, 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 70. 70. Un âge que j'atteindrai sûrement jamais. Amenez-moi 70. La seule putain des potes qui m'a dit. 70. Un âge que j'atteindrai sûrement jamais. Ramenez-moi 70. La seule putain d'époque qui m'a aïe aïe. J'aurais dû y 60 sur. Mais j'aurais vécu plus vrai. Je veux des millions, j'en veux 70. Pour oublier que j'ai peur de d'aïe.
C'est moi que j'ai le gros sexe et c'est moi que j'ai les grosses. Moi le plus nerveux, mais c'est moi que j'ai l'air trop zen. Vas-y roule une autre mèche. Ça caille, ça caille. En boucle comme sur Akai. C'est moi que je prends la place, personne va me faire un procès. C'est moi le plus classe, même quand je choisis d'être obscène. Demande à mes ex-copines qui braillent. Les gouttes de sueur les trahissent. Hey
70, un âge que j'atteindrai sûrement jamais. Ramenez-moi en 70. La seule putain d'époque qui m'a hi. Aïe aïe, j'aurais dû y 60 sur. Mais j'aurais vécu plus vrai. 70, pour oublier que j'ai peur de taille.
Aujourd'hui bon vivant, je pars de rien. Mais quand la fête se finit, le cafard revient, comme en septembre. Le buvard d'Hendrix aurait empêché que ça s'étende. Mes frères belges appellent ça les années 70. Si je t'ai laissé m'emmener quelque part, c'est que t'es encore plus belle que Barge. Hey. Cette nuit escaladons le square. J'ai de l'or dans les couilles, il faut me sucer pour le croire. Allez, allez, fais-moi croire que cette vie est belle. Je suis trop guidé par ma libido pour me méfier d'elle. Sois pas mal à l'aise quand les gens te matent. Te juger, c'est pas le genre de ma gueule. Danse comme si t'avais les jambes de Michael. Plante verte et plus relaxante 15 pas. Une gueule de bois ça coûte 15 balles. La mort ça coûte même pas 3 centimes. Mes frangins peuvent plus passer un soir sans tisse. On s'éteindra avant de souffler nos 70.
Voilà, comme son nom l'indique, l'homme pâle est blanc. Il fait du skate et il roule, lui, sur plus de 50 000 ventes certifiées pour ce Flip, qui est édité chez Pinil Prod Grand Music Management. Il ne vient donc pas d'une grande maison de disques, l'homme pâle.
Non, non, c'est une des choses intéressantes en ce moment, c'est que l'homme pâle est en train de casser les dernières barrières, ou en tout cas ce que les majors vendaient encore aujourd'hui, c'était de la puissance marketing, une capacité à emmener les artistes d'un niveau où ils étaient connus, voire très connus auprès de leur communauté, sur internet, sur les plateformes de streaming, mais que pour atteindre les grosses radios et les télévisions, et donc pour atteindre vraiment le très grand public, la ménagère de moins de 50 ans, il fallait encore la puissance marketing, la puissance d'une major. Et en fait, l'homme pâle est en train de faire tout ça sans une major, et d'ailleurs les majors sont pas très contentes, elles sont très préoccupées par tout ça en ce moment. Il a refusé des offres importantes de plusieurs majors, et c'est assez intéressant à suivre parce que dans cette grande mutation, cette grande transformation du monde de la musique qu'on est en train de vivre autour du streaming aujourd'hui, en fait les majors, donc Universal, Sony, Warner, il en reste trois, en fait sont en train de se fragiliser. Elles sont en train de voir qu'elles sont extrêmement fragiles en fin de compte, parce que les artistes font de plus en plus de choses tout seuls. Ils ont leur petit entourage, ils font leurs réseaux sociaux.
Ils
veulent contrôler leur image. Ils sortent plus de CD ou de vinyle. Niska, par exemple, qui a eu un gros succès, il n'y avait pas d'édition physique. Damso, il n'a pas vendu beaucoup, beaucoup de physique. Booba, il y a une version CD, mais c'est très, très, très faible vente. Donc, ils n'ont pas besoin aussi de la puissance de fabrication aussi d'une major, etc. Il y a de plus en plus d'artistes dans la très jeune génération et plutôt dans les musiques urbaines qui sont en train de se passer des plus grosses structures. Et c'est un peu l'ubérisation des maisons de disques. Ce qui ne veut pas dire que les maisons de disques ne servent à rien du tout. En fait, elles servent côté artistique. Les maisons qui ont le plus gagné de victoires de la musique, par exemple, c'est pas pour rien que cette année, ce sont les maisons indépendantes, Wagram, Tôt ou Tard, Because, qui en fait parlent musique à leurs artistes. Là où les majors ont, en partie, ces derniers temps, ne parlent plus que de business parce que les artistes arrivent avec leurs disques terminés, en fait, et ils vont voir les majors quand ils ont besoin d'atteindre M6 ou Energy.
Et puis ces artistes ont aussi tendance à se passer des médias ou des intermédiaires traditionnels, c'est-à-dire que vous n'avez plus d'attaché de presse, ça, nous y sommes confrontés, nous ici du côté de la presse, c'est-à-dire qu'on ne sait plus à qui s'adresser, et puis ils ne passent plus non plus par les médias traditionnels. Il y en a, par exemple, Vald, qu'on entendra tout à l'heure, refuse désormais de passer à la télévision, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour lui, il y est caricaturé, pas compris, et ça n'est plus intéressant pour eux d'utiliser les médias traditionnels.
Oui, parce qu'ils vont, toucher. S'ils font une vidéo sur YouTube, ou s'ils parlent sur Snapchat, ou s'ils vont sur des médias, des nouveaux, plus ou moins jeunes, mais des médias qui parlent beaucoup plus à leur public. Il y a des médias comme OKLM Radio, l'ABCDR du son, Rapélite, Bouscapé, qui sont des médias en fait qui sont aussi puissants que des émissions sur M6, etc. Donc, ils n'ont pas forcément besoin d'aller s'embêter. Effectivement, quand on voit en plus comment le rap, enfin les rap, vraiment, je trouve qu'il y a un problème en ce moment de sémantique hein, sur ces musiques-là, sont traitées à la télévision ou à la radio avec méfiance, distance, voire avec une certaine peur. Je trouve que la représentation de la diversité du rap en France dans les médias pose vraiment problème.
Il y a une question du rappeur blanc ?
Il y a une vraie question du rappeur blanc. C'est une question que j'ai posée sur Twitter. Le fait de voir, vraiment, sans que ce soit lié en quoi que ce soit à la nature des artistes qui étaient nommés, hein, c'est pas du tout, le problème ne vient pas d'eux, mais de voir que, à la fin de cette année 2017, qui a été marquée par tellement de rappeurs, on avait comme nommé Orelsan.
Aux Victoires de la Musique.
Orelsan, L'Homme Pâle, Big Flo et Oli, c'est-à-dire des rappeurs blancs, des origines diverses, mais blancs, avec des musiques beaucoup plus CSP, voire du rap pour maman, on va dire, qui ne font peur à personne. Même Orelsan, c'est très œcuménique dans son public, même s'il peut être plus dur dans sa parole. Derrière, on avait ni Damso, ni Niska, ni Booba, etc. Enfin, des gens comme ça. Et quand on regarde sur l'ensemble de l'année, c'est des gens qui, alors, ok, peut-être que eux refusent aussi quelque part d'aller dans certains médias qui les caricaturent, mais ça vient pas de n'importe où, voilà. Et on a un vrai problème mais c'est un problème qui dépasse la simple musique. En fait, c'est l'expression dans la musique d'un problème de la France avec sa diversité et sa diversité. C'est exactement ça le mot. On a du mal à respecter toutes les cultures et à s'y confronter aussi et à dire aussi que le monde il est un petit peu dur aussi des fois et qu'il faut peut-être s'y confronter et ne pas se confronter seulement à la version douce de ce monde-là.
Sofian Fennen, en 2016, pour la première fois, le streaming, ça vous l'écrivez dans votre livre, hein, Boulevard du Stream, le streaming a représenté plus de la moitié des revenus de la musique enregistrée aux États-Unis, tandis qu'il tirait le marché mondial de sa léthargie. Hein, ça, c'est la fin de votre livre. La dématérialisation de la musique, c'est une révolution qui a profondément bouleversé l'industrie musicale, mais aussi notre façon d'écouter de la musique. Et peut-être la musique elle-même. Comment est-ce qu'on est passé des CD de Boulevard des Hits, hein, qui se vendaient beaucoup dans les années 80, 90, au système des playlists, hein, puisque le mot-clé chez ceux que vous avez interrogés, puisque c'est véritablement une enquête, c'est le mot « usage ».
Il y a deux révolutions dans le streaming. Il y a bien entendu la fin de la possession de la musique pour en fait la location. On loue un accès à la musique par un abonnement ou par l'écoute de publicité. Mais en fin de compte, la vraie révolution, ce sont les playlists. Il y a eu un peu deux moments dans les premières années du streaming, notamment sur Deezer, sur Spotify, qui sont à peu près les deux playlists très actives à ce moment-là. Ce sont les playlists des plateformes qui sont basées sur les albums. En fait, ça ressemble un peu au vieux monde de la musique. On découvre les albums qui sont sortis cette semaine, etc. Et on écoute des albums. Et Spotify, en rachetant une entreprise spécialisée dans l'analyse de données d'écoute, la fameuse Big Data, se sont rendus compte que les utilisateurs, en fait, n'écoutaient pas que des albums et qu'ils avaient tendance à démonter les albums, à ne garder que les titres qu'ils aimaient bien, qui leur évoquaient quelque chose, et à les ranger dans des playlists et des compilations en fait. Hein, la
comme quand on
la bête compilation.
Et comme quand on faisait des cassettes.
Exactement, la bête compilation pour draguer. Qui n'a pas fait une cassette avec ses morceaux préférés?
C'est pour les personnes qui sont nées il y a longtemps.
Mais on faisait des CDR aussi à la fin des années 90. On copiait des CD, on faisait des compilations sur CD, etc. Soit pour les soirées. Moi, je faisais des compilations avec des morceaux pour passer en soirée ou pour les vacances aussi. On mettait ça dans l'autoradio, etc. Sauf que c'était une pratique relativement marginale et surtout que l'économie de la musique, l'industrie de la musique, les labels, la laissaient comme une pratique marginale. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement ces compilations de boulevard des hits, etc. Il y avait un vrai usage, mais le maître étalon de la musique et de l'économie de la musique restait l'album, le sacro-saint album né du 33 tours, etc. C'était vraiment il n'y avait pas d'après. Et donc Spotify, tout d'un coup, se rend compte que l'album, c'est une partie des écoutes, mais que ce sont les playlists qui sont les plus utilisées, les playlists des utilisateurs. Et quoi de mieux que de proposer des playlists directement aux utilisateurs, plutôt qu'ils les fassent eux-mêmes. On va leur proposer des playlists. Et donc Spotify a complètement inversé son mode de proposition de la musique, et toutes les autres plateformes ont vraiment suivi dans la foulée. Et maintenant, on est vraiment sur un monde qui est la playlist en premier. D'ailleurs, les albums sont renvoyés de plus en plus dans les confins des plateformes, comme s'ils étaient moins importants. En fin de compte, c'est un peu plus complexe que ça. Il y a encore une vraie écoute des albums, ils ont une vraie place. Mais du coup, la playlist change tout, déjà parce qu'elle donne aussi beaucoup de puissance aux plateformes de streaming qui deviennent des éditorialistes. Elles choisissent les morceaux comme des radios.
Une playlist d'ambiance, Sofian Fennen.
C'est même de la musique ambiante, c'est le style électronique ambiante, c'est Biosphère, avec un musicien norvégien que j'aime beaucoup. Déjà que j'ai beaucoup écouté quand j'écrivais ce livre, parce que j'avais besoin d'une musique qui s'efface un peu, qui ne soit pas trop présente dans ma tête avec des paroles, etc. Donc c'était très bien de pouvoir entendre Biosphère. Et Biosphère est assez symptomatique. Alors, c'est un peu particulier, parce que dans les playlists, effectivement, aujourd'hui, bon, il y a les playlists de hits, de tubes, de un peu par genre, etc.
Mais en fait, rap caviar.
Et en fait, les genres, bon, c'est encore important les genres quelque part, mais ils sont en train de s'effacer derrière à quoi sert la musique qu'on est en train d'entendre, qu'est-ce qu'elle évoque, et on se retrouve avec des playlists garde la pêche.
Mais c'est le mood en fait.
Le mood, voilà.
L'esprit. Ouais.
Alors c'est une vieille histoire, la musique d'ambiance, je le raconte dans le livre. La notion de musique d'ambiance, en fait, ça a toujours existé. Dans les églises, la musique d'église est une musique fonctionnelle, musique d'ambiance, qui est là pour amener le participant à, voilà. De la même façon, il y avait de la musique de table, dans les cours, etc. Voilà, tout ça n'est pas nouveau. Et au XXe siècle, on a eu la fameuse Musac, de l'entreprise Musac, qui est née notamment pour mettre de la musique dans les ascenseurs, parce que les gens avaient peur quand les ascenseurs ont commencé à monter et descendre dans les gratte-ciel de New York. En fait, les premiers voyageurs avaient peur, donc on mettait de la musique pour les apaiser. Donc tout ça est une vieille histoire, mais ça revient vraiment au premier plan avec le streaming, parce que le streaming est et c'est aussi le but des plateformes, c'est de créer une écoute la plus longue possible, de garder les auditeurs sur la plateforme et qu'ils écoutent de la musique pendant des heures et des heures et des heures. Et quoi de mieux qu'une musique qui s'efface, qui disparaît dans le fond sonore pendant qu'on est en train de faire autre chose, que voilà, c'est et donc du coup, on a énormément comme ça de playlists d'ambiance qui vont de la musique pour faire du sport à la musique pour dormir. Il y a vraiment des playlists de musique pour dormir. Et Biosphère, qu'on a entendu, lui, il a un statut un peu bizarre, parce que c'est un musicien qui fait de la musique depuis 20 ans, qui va aller monter sur des glaciers pour enregistrer de la glace, qui craque, et faire de la musique avec ça. Et il se retrouve dans des playlists où on ne doit presque pas l'écouter. Alors que lui, il fait une musique qui est censée être très immersive, qu'on écoute au casque, etc.
Laquelle on prête attention.
À un moment d'écoute très actif. Et en fin de compte, il se retrouve utilisé un peu à son corps défendant. Donc ça pose plein de questions artistiques qui sont assez intéressantes, qui vont l'être dans les années à venir, je pense.
En étudiant les données des utilisateurs qui révèlent les comportements réels des auditeurs, hein, donc vous l'expliquez bien, hein, Sofian Fanen, donc les utilisateurs n'écoutent pas un album en entier, ils écoutent 2-3 morceaux. En analysant toutes ces données-là, ça pose des questions finalement éthiques à des acteurs comme Spotify ou Deezer, c'est-à-dire doivent-ils avoir une pratique de l'offre ou une pratique de la demande? C'est-à-dire, est-ce qu'ils doivent suivre ce que les internautes, ce sur quoi ils cliquent, ce qu'ils plébiscitent, ou est-ce que finalement ils doivent leur proposer plus de choses nouvelles? Mais moi, je suis désolé, mais on se demande comment est-ce qu'ils choisiraient autrement de suivre la demande.
Bah, ils ont fait le choix, hein. Ils choisissent, ils suivent la demande, effectivement. En gros, pour résumer, les plateformes de streaming sont devenues ou en train de devenir des stations de radio commerciales. Sauf que ce qui est intéressant dans une plateforme de streaming, c'est que elles vont être en même temps la radio la plus commerciale du monde et en même temps une toute petite radio libre qui peut aller amener quand même de la musique à quelqu'un sur une niche musicale. C'est ça qui est assez intéressant. Mais très clairement, les plateformes de streaming ont bien compris qu'elles avaient intérêt à générer des tubes générationnels. Quoi de mieux pour fédérer beaucoup d'auditeurs sur une plateforme que d'avoir des morceaux à mettre en avant. C'est l'histoire de Ed Sheeran, Petit Biscuit, que Spotify a beaucoup poussé, parce que Petit Biscuit, au-delà du succès de son morceau...
C'est un tout jeune homme, il a 18 ans...
Voilà, et c'est un exemple parfait pour Spotify pour dire, regardez, le streaming, ça marche, on a révélé cet artiste, et venez tous l'écouter chez nous, et on sera tous ensemble pour écouter Petit Biscuit, qui est vraiment l'artiste, le nouvel artiste du streaming, etc. Ed Sheeran, c'est pour ça qu'ils ont beaucoup mis en avant le titre le plus écouté de tous les temps sur Spotify, etc. Parce que ce sont des tubes modernes, et il faut que les tubes modernes soient inscrits dans le streaming, plutôt que d'aller éclater, diversifier les écoutes, et finalement aller répondre aux besoins très divers en fait de chacun d'entre nous, parce que nous sommes des auditeurs très très divers en fin de compte, beaucoup plus que les plateformes le revendiquent, et de beaucoup plus que les radios commerciales le revendiquent aussi. Mais les radios commerciales ont depuis longtemps resserré le nombre de titres qu'elles diffusent, leur fameuse playlist, le mot n'est pas anodin, à 40 titres, énergie, etc., passe 40 titres au même moment, il n'y en a pas un 41e, et en fin de compte on arrive à peu près au même niveau de découverte si on se laisse porter uniquement par ce que proposent les plateformes de streaming. Après, la différence avec le streaming, c'est qu'on peut faire le petit pas de curiosité supplémentaire et aller découvrir un monde musical infini.
Forme enracinée avec son cosmos, mons et amenés par un malbamant. Ravasé point sel, couleur dans son esprit. Maï maïe pour toute son vie. Zamé arrosé par bouteille, l'essence dans son gaz. Envoyé par que son bondier. Zamé arrosé, l'eau de l'encens dans son gaz. Envoyé par que son militant pour tout le temps dans un bout de
Benoît de Label, c'était sur son disque Univers Hill. Pourquoi vous aviez choisi ce morceau, Sofian Fanen?
Parce qu'il est très beau, tout d'abord.
Évidemment.
Ce disque est merveilleux et qui représente un peu de la difficulté aujourd'hui pour un artiste comme Label, typiquement, qui fait une musique qui est particulière, hein, qui est pas non plus pour passer sur M6 à 20h. Comment, c'est une question que j'ai pas la réponse. Comment le streaming peut servir tout le monde? Comment le streaming peut emmener tout le monde, tous les artistes, et aller amener une musique comme Label à quelqu'un qui va être touché par cette musique? Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde dans le streaming? Est-ce que les plateformes peuvent avoir suffisamment de personnes pour s'intéresser à la musique et pas seulement à ce qui clique, à ce qui fonctionne, pour aller se dire voilà, pour faire vraiment un travail de qui est presque un travail de programmateur radio, c'est vraiment de revendiquer comme ça des marges. Est-ce que le streaming est capable de revendiquer des marges? C'est une vraie question sur la représentation de la diversité dans les années à venir.
Merci beaucoup Sofian Fanen. Je rappelle, alors on n'a pas eu le temps de parler, il y a une partie hyper intéressante dans votre livre Boulevard du Stream, c'est le chapitre Débat moral, chaos politique, où vous expliquez ces acronymes dont la France a le secret, DATVZI, ADOPI, les réponses de protection et pourquoi est-ce qu'il y a eu du lobbying à faire du côté de l'industrie du disque pour réagir à ce qui est vraiment une révolution technique. C'est vraiment un livre passionnant, Boulevard du Stream, du MP3 à 10h, la musique libéré chez Castor Musique. On écoute tout de suite l'interview réalisée il y a quelques jours avec le rappeur Vald. Vous le connaissez d'ailleurs, Vald?
Oui, pas personnellement, mais que je connais sa musique. Et oui, il fait partie des jeunes, il est plus si jeune que ça, mais des rappeurs très intéressants.
Je ne suis pas un écrivain, je suis plus qu'un esprit simple. Je multiplie les petits pains, je n'appelle pas chez qui il vient. On m'appelle VALD, rap de merde j'ai allaité. Je crois que je vais jamais arrêter, je coupe la plaquette à l'épée. Plein de filtres, plein d'effets, t'as pas de rime, pas de texte. Pas de string, même pas de fesses, pas de piste donc pas de guerre.
Ça j'ai l'impression que c'est très filtre, ouais c'est un filtre comme un autre en fait. Comme on enregistre nos voix, et de plus en plus tout seul, on est de plus en plus amené à faire les filtres nous-mêmes et tout ça, de s'y essayer. Puis j'ai l'impression que c'est très actuel en fait, que tout le monde a une voix de robot. Je trouve ça très, très actuel et très artistique en fait pour un humain de se rapprocher de la machine. Quand la machine essaie de faire des morceaux d'humain, ça je trouve c'est un peu bizarre. Mais l'inverse, je trouve ça plutôt stylé, ça fait un peu cyberpunk, ça tue.
Pour Ni Queue Ni Tête, les productions elles étaient signées de différentes personnes. Pour Agartha aussi, c'était essentiellement Sirius, DJ Widim et CZ. Ici, c'est essentiellement CZ qui fait la plupart des productions. Pourquoi se concentrer avec un seul producteur? Est-ce que c'est pour tendre à une forme d'unité sonore?
Je pense que ça n'a pas été fait exprès plus que ça. Je pense que CZ, c'est mon meilleur copain dans la musique. Je trouve que c'est vraiment le plus talentueux. Et je me suis retrouvé à faire un nouvel album. Il était là et on a tout fait ensemble. C'était vraiment pas calculé. C'est une fois qu'on avait tous les morceaux, tous les mix, en fait, qu'on s'est dit « Putain, mais c'est incroyable, t'es sur tous les morceaux, en fait. »
Vous avez une formation d'ingénieur du son?
Un peu, tout à fait. J'ai une certification, un papier qui dit que je suis technicien son. On livre pas de papier pour dire ingénieur du son. C'est un peu un statut très flou, tout ça, qui se fait avec beaucoup d'expérience. C'est le milieu qui dit toi que t'es un ingénieur ou pas. Mais en tout cas, j'ai une certif de technicien son, effectivement, ouais.
Ça vous sert à quoi aujourd'hui?
À remplir un cadre, a priori, dans les chiottes.
Sur cet album, comment est-ce que vous définiriez la production à laquelle vous avez travaillé avec CZ?
Comment je la définirais? Très trap, très 808. Très sombre.
C'est quoi Hello8?
C'est les subs, c'est un genre de kit de dirty en fait, c'est des kits dirty quoi, qui sonnent très amples, très larges, très boum.
Vous l'avez enregistré où l'album?
Je l'ai enregistré à LA, tout à fait. Voilà, on l'a enregistré à LA dans une méga grande villa et on a fait enregistrer toutes les voix dans un placard. Dans lequel qu'on a bourré d'oreillers effectivement, et pour avoir une espèce de cabine insonorisée, on a tout enregistré là-bas. Et effectivement, je n'arriverai pas à te dire le coin exact.
À quoi ça sert d'aller jusqu'à Los Angeles pour enregistrer dans un placard?
C'est vraiment pour catcher la vibe, parce que tu vois, tu fais du son à Paris, tu fais du son à Paris. Mais quand tu fais du son à LA, je veux dire, disque d'or en 9 jours, voilà.
Si tu le fais pas, moi je le fais. Si tu le sais pas, moi je le sais. Comme si j'étais sorti d'HEC, sur le détecteur la chaussette. J'ai les combos, la recette. Promis, je touche pas ta serrette. Je t'aime encore en levrette, je t'aime encore en secret. Putain, j'ai le cœur sur la main. Je renifle les fleurs du malin, chant encore l'odeur du machin. J'esquive l'heure du matin. Je sais très bien ce qui m'attend. M.T. pense à moi si t'as le temps. Je la vois qu'une seule fois par an, comme le prime sur le site d'action. J'ai la vue sur Tim en bas, je ne suis plus sentimental. Tu m'as vu sortir en bas, les poumons quasiment noirs. En route pour niquer des mères comme lundi matin, dimanche soir. Mais écoute-toi si tu préfères ton rap de caissier qui vend pas.
Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Amine
et Hugo.
Et aujourd'hui c'est un grand jour. J'attendais ce moment avec impatience depuis tellement longtemps. On va se faire, écoutez, le nouvel album.
Vas-y calme-toi.
Le nouvel album de Bald Gzo.
NQNT comme Péritel. Van rap trop spirituel, je ne t'effrie plus everyday. Ça me rend l'esprit trop étriqué. Niquez vos mères, je vais me délivrer. Tout cet oseille, je l'ai mérité. J'ai disque d'or, j'ai pédiglé. T'as que le mort est périmé. Je peux m'arrêter, mais je continue. Pour le turn-up, je contribue. Abandonne-moi, je reconfigure. Je te laisse la chatte en confiture. Toujours en train de leur consigne. Chaque crise dont t'as pris en fly. Comme saturé, dimanche. Je fais la lumière sur bilan crâne. Prochain album, je veux 600 car. J'ai la vue sur.
Mec, c'est. Non, mais mec, franchement, je me suis trop chaud au cul du son en fait. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse un truc comme ça. Encore une fois, je suis surpris, mais agréablement.
J'ai tombé du canapé.
Ouais, voilà, j'ai tombé du canapé. Donc, vous savez.
On a dû faire un poula.
Putain, enfin bref, bah, dites-nous ce que vous avez pensé de ce son, de ce retour officiel de Bald. Dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo. N'oubliez pas évidemment les réseaux sociaux.
Amine, Hugo, Snapchat, Twitter, Facebook.
Et maintenant Instagram, on est partout pour la culture, on sera partout.
Alors Gzo est déjà disque d'or. Le premier extrait qu'on a pu entendre, c'était Désaccordé. Moi, je crois qu'une des premières fois où je l'ai entendu, en fait, c'était pas seulement le morceau, c'était via une vidéo d'écoute sur YouTube avec Amine et Hugo, voilà, sur leur chaîne YouTube, qui donc écoutent les morceaux en direct et les commentent. Comment vous regardez ce fait d'écouter la musique au travers des autres ?
Je regarde ça avec du pop-corn. Et évidemment... beaucoup de plaisir. Je suis super content en fait que des gens découvrent la musique comme ça, qu'ils en fassent des commentaires à chaud. On a quelque chose. Déjà que je fais la musique très vite, très spontanément. Et là, t'as des mecs qui l'écoutent d'un coup et qui te donnent un avis dessus très spontanément. Je trouve que tout ceci est très magique en fait et très. Moi, je me branle beaucoup. J'ai très vite l'impression que l'univers veut tout ça et que tout ceci est manigancé, que rien n'est contrôlé. Je suis très content de voir des amateurs dire oh c'est génial ou oh c'est très nul. Oh j'adore. Je les aime plus que tout. Mais après, c'est sûr que c'est très pauvre, finalement, comme avis. Un mec qui va écouter un morceau, qui va dire « Oh, c'est génial !» C'est très pauvre, mais c'est génial. C'est pour ça que je fais de la musique. Pour que les gens écoutent la musique et se prennent la tête et qu'ils tombent du canapé. Voilà. C'est pour ça que je fais ça.
Pourquoi vous faites aussi toutes ces mises en scène d'images ? On a pu vous voir en flic à moustache, en reptilien, en train de menacer un ministre. Enfin, vraiment, dans toutes sortes de situations différentes. Ça fait aussi partie de la musique ?
Je pense qu'à un moment donné, pour se faire entendre, il faut donner un bon spectacle. Un spectacle intéressant, un spectacle original.
Pour le prochain, par exemple, vous pensez à quoi ?
Je pense, j'aimerais beaucoup, je le livre évidemment en exclusivité, j'aimerais beaucoup faire la partie 2 de Autiste. Vraiment faire quelque chose de super brutal, de revenir dans le horrorcore à l'image. Puisque maintenant les chiffres sont avec nous, on n'a plus personne à charmer.
J'baisse le monde comme un autiste, j'baisse le monde comme un autiste, j'baisse le monde comme un autiste, au lit, faire de l'ombre, j'ai la notice, oh oui, j'erre selon l'état de folie, j'perce le tronc, c'est l'euphorie, j'baisse le monde comme un autiste, oh oui, peut-être que bon, c'est pas joli, joli.
Wesh Valentin, j'aime vraiment bien la manière dont tu zépaux, j'comprends rien, mais ça me fait rire quand j'me morfonds sur le béton. De toute façon tu n'es con, je te suis sur le déco. Si tu veux je te suis sur des mots. Des beaux même fait plus croire que t'as plus de raison.
Bald, c'est l'identité de Valentin Ledu. Vous avez 25 ans. Vous vous souvenez de la première fois où le nom de Bald a été posé ou écrit quelque part?
Je crois que le plus loin que je me souviens c'était MSN. Je crois que ça vient de là, il me faut une abréviation pour MSN, pour les adresses hotmail de l'époque. Ouais. Moi j'avais une adresse .com, je l'ai encore. Je suis un OG, un old-timer.
Vous publiez, écrivez beaucoup. L'album précédent date de l'année dernière, donc il y a une forme d'urgence chez vous à écrire, à enregistrer. D'où vient cette urgence, le besoin d'écrire, enregistrer beaucoup ?
Vous me parlez ? Non, je pense que c'est une histoire de rythme avec le rap. Je pense que tout le monde va très vite aujourd'hui. Même moi, je sors un album par an, je suis plutôt lent en réalité. Moi, j'ai l'impression que c'est le temps qu'il faut, quoi. Le temps que je sorte un album, je fais une tournée, j'ai un peu de temps pour moi, j'arrive à en chier un autre, et je vais faire ça pendant encore longtemps. C'est sûr, ça. Non, je pense que c'est le bon timing pour moi, ouais.
Cet album, Xe, il parle surtout de réussite, de drogue, hein, c'est ce que suggère le titre Xe, qui veut dire, c'est ecstasy, quoi, le Xe. Il parle aussi surtout d'amour, en fait, de celui qu'on n'arrive pas à avoir pour soi, ou de celui qu'on n'arrive pas à donner aux autres, hein, le regard des uns, le rejet des autres.
Ouais, pas bien, merde.
Au fond, votre rap, c'est apprendre à s'aimer?
Je pense que mon rap, c'est apprendre à s'aimer, apprendre à se connaître, apprendre à s'accepter, et se chercher profondément et s'énerver sur tous ceux qui ne se sont pas trouvés. Voilà. Ouais, je pense que c'est ça mon rap, c'est sûr et certain. Et c'est aussi évidemment le rap de la fête. Ouais, tu me parles de Xe, d'ecstasy. C'est vraiment comme on le voit, on s'en fout. Moi, je suis pas là pour appeler mon album Ecstasy. J'ai pas ce niveau-là, tu vois. Mais si on veut, ça peut être pris comme ça, c'est sûr et certain. Tu vois, la musique, il y a beaucoup de parallèles à faire entre la musique et la drogue quand même. Il y a un côté très addictif, très perte de soi dans la musique, dans la drogue. Tout ceci est très lié. Puis de toute façon, on écoute la musique dans la fête. Et je pense que la musique parle de ça naturellement. C'est sûr et certain, ça. En tout temps, depuis le début. Ça ne parle que de ça.
Amen. J'aimerais tant faire la paix avec toi, avec moi. Ouais, mais non, ma bête noire me laisse pas assez d'espace. Je suis toi, tu es moi. Je sors même de ta mère. On sort de la même merde. Et pourtant, tu m'agresses. Je vais te faire fondre la graisse. Je vais found ton adresse. Te montrer mon adresse quand je chante de la messe. On dira dans la presse que c'est à cause de la haine qu'on était des sauvages, des otages du naufrage. Des ados sans repère. Des adultes trop amers, on m'adule, c'est la fête, je les insulte, c'est la merde.
Le deuxième titre, Somme, il y a quelque chose d'un peu martial, d'un peu guerrier, mais en fait guerrier avec soi-même. J'aimerais tant faire la paix avec toi, avec moi. Il y a une part d'analyse au sens divan dans le rap.
Il y a une part de, en tout cas, dès la première line de ce morceau, je dis que le Somme vient avant tout d'une colère contre soi-même. Après, c'est pas non plus des trucs que je peux vraiment développer dans la musique et tout ça. Je trouve ça très vite chiant, donc je vais vite aborder des trucs que je trouve super importants en deux mots, en fait, en une demi-mesure. Et vraiment, genre, j'aimerais t'en faire la paix avec toi, avec moi. Je trouve que ça pourrait même être le résumé de l'album, quoi. Ouais, c'est vraiment ça que l'album veut dire, quoi. J'aimerais tant, je ne pense qu'à ça. Quand j'ai fini de penser à un truc et que mon esprit démarre sur une nouvelle pensée, bon, comme tout le monde, hein, je suis pas non plus une machine ou quoi que ce soit, mais la première chose qui me vient en tête, je sais pas pourquoi, j'ai tout le temps cette phrase, j'aimerais tellement faire la paix avec vous, avec tout le monde, c'est ouf, je sais pas pourquoi, d'où ça me vient, mais c'est sûr et certain, quoi, que, en fait, on est avant tout colérique envers toute la terre et tout le monde parce qu'on se déteste nous-mêmes profondément, quoi, tu vois, ouais, c'est sûr et certain.
Vous êtes encore jeune, vous avez 25 ans. Comment est-ce que vos parents ont vu ce qui devait être pour eux une sorte de distraction devenir une source de revenus et de reconnaissance?
D'abord la peur. D'abord, évidemment, quand ton enfant il va faire du rap, c'est l'enfer sur terre. Après, je l'ai fait intelligemment. Moi, j'ai continué les études et tout ça. C'est vraiment quand j'ai commencé à avoir des opportunités, entre guillemets, dans la musique, que j'ai mis ça de côté, quoi. Genre, c'était presque mon métier, quoi. J'ai dit, bon, là, j'ai trouvé mon métier, ça va être du rap, quoi. Donc, c'est pas très rassurant. Mais maintenant qu'on a des résultats, qui viennent au concert, à l'Olympia, ils sont tellement heureux. C'est mes premiers fans, bien sûr. Ils me font des chroniques d'albums, quoi. Ils sont complètement fous.
Vous auriez fait quoi si ça marchait pas?
Moi, j'étais parti pour être prof. Ouais. Ouais, j'étais parti pour être prof. Je donnais déjà des cours particuliers, tout ça. Puis j'aime bien cette idée de donner la curiosité aux enfants, plus que de leur apprendre des choses et de leur brûler le crâne, tu vois. Mais leur souffler la curiosité, je trouve ça beau.
Vous dites aussi, je crois que c'est au tout début de l'album, Xe, on m'a pris pour un fou. Qu'est-ce qui a été le plus mal compris chez Vald?
Mes gros coups. Et finalement, c'est ça que les gens ont pas compris, en fait. Ils se sont dit, bah, Vald, c'est le fou, quoi. C'est le fou qui dit bonjour, qui fait des films de cul, qui crie shoot un ministre, que les autistes, ils veulent tuer, enfin voilà, quoi. C'était ça. Alors qu'autour de ça, il y a des albums et des projets entiers, tu vois. Après, moi, je suis pas là pour dire, ouais, vous m'avez fait un procès d'intention, vous m'avez pris pour un fou, quoi, tout ça, tu vois. Genre, vite fait, j'en parle deux secondes, tu vois. C'est sûr qu'on m'a pris pour un fou à cause de mes gros coups. Les clips ont pris trop de place, c'est sûr et certain, quoi.
J'ai tellement la pêche quand y'a plus de ce plat dans mes poches. Oui, le bose m'explose la tête, remballez vos cochonneries. J'suis grand et petit comme le boson X. J'ai la patte qui colle à cause de Mia Nicole. On ne rigole pas avec mes idoles. Hey, je me branche, j'fais du bif, c'est nickel. Je te mange, je te nique, tu te manges le vide, le nez vers les étoiles avant de finir en sauveli. Bitch, te perds pas dans le sevi, moi j'suis pour de vrai. Je peux tout le faire, je peux nous refaire. Tu paies pour le sgeg, j'fais des commentaires donc tu t'améliores. Je vais ramener l'or, crier Mazel Tov lorsque Val descend. J'ai le regard dans le vide comme Joe et Beden. Comme je m'enrichis, je prends de la bedaine. Bosse de méga shit pour que je la reperde. A ma droite le verre, donc à ma gauche le terre. Car tels sont mes repères et la planète accouche de cartels de merde. Ouais mais je m'en fous, je veux juste de quoi perdre la boule dans une sacoche du bled.
Vous avez demandé le refrain. Ne quittez pas. Vous avez demandé le refrain. Ne quittez pas. Un conseiller va vous prendre dans quelques minutes.
Vald, on aurait pu se rencontrer aussi à Aulnay-sous-Bois, où vous habitez. Pourquoi c'est important, là d'où on vient, en tout cas dans le rap? Moi, j'ai l'impression qu'on ne demande jamais à un musicien de jazz ou un type qui fait de la musique électronique ne dit jamais « moi je viens d'ici ».
Je sais pas, c'est la culture. C'est la culture. La culture rap est faite comme ça. La culture rap, c'est d'abord des mecs qui représentent leur quartier pourri et qui disent qu'ils sont trop forts. Donc on représente tous notre quartier pourri. Ouais, c'est la culture. C'est tout. La coutume, je dirais. Même moi qui suis du genre à dire, ouais, y a aucune fierté à être né à tel ou tel endroit, tu vois. En fait, au bout d'un moment, t'es content de représenter les gens avec qui t'as passé ta vie, en fait. Ouais, tout simplement. Je pense que ça vient de là, quoi. Grosse dédicace à tous les mecs de Aulnay-sous-Bois. Si, sans queue, représente. Quand je vois arriver sur l'autoroute les panneaux Charles de Gaulle, Aulnay-sous-Bois, ma vie s'illumine. Mon cœur ralentit.
Aulnay-sous-Bois, vous comptez y rester, par exemple?
En tout cas, c'est la commune dans laquelle je me sens vraiment chez moi. Est-ce que je vais y rester? J'espère pas. Moi, j'aime l'horizon. J'aime les grands jardins. J'aime les prés. Les champs de blé. J'aime vraiment tout ça. Et j'espère très vite arriver en province et m'installer en province. Très vite, effectivement. J'ai besoin d'horizon.
Qu'est-ce que vous avez écouté qui a pu, sans exercer une influence, en tout cas, compter
Section d'assaut. Section d'assaut. Bien sûr, Section d'Assaut et Al Capote. Section d'Assaut m'a permis de le faire, genre c'était trop simple quand il le faisait, du coup je me suis dit, bah vas-y, moi aussi je peux le faire. Et Al Capote m'a fait vraiment aimer le rap comme personne. Ouais, c'est sûr, certain ça. Je revois Maître Gims dire, je suis la baleine dans l'aquarium. Je sais pas, je les revois faire Antitectonique et tout ça, mais je les connaissais tellement par cœur, mais depuis j'ai sorti 7 CD avec des textes que je dois apprendre à moi, donc putain, j'ai tout perdu. Mais je connaissais tout, leur freestyle dans la rue. Leur premier street live incroyable. Putain, je connais. Des légendes.
J'imagine que vous écoutez d'autres choses que du rap. J'étais tombé sur une interview de Damso. Il disait qu'il adorait Mylène Farmer.
Eh ben, Damso a beaucoup de patience. Parce que je suis un horrible. Je n'écoute que du rap. Je suis insupportable. Et d'ailleurs, je n'écoute que Al Capote. Et VLD, c'est terrible. Mais j'écoute mes albums quand ils sont pas sortis. Bizarrement, quand ils sortent, il y a comme un espèce de phénomène où les gens se l'approprient, c'est plus vraiment à moi, quoi. J'ai plus vraiment d'intérêt à écouter ce qui est sorti. Mais j'écoute énormément ce que je fais avant que ça sorte. Waouh, c'est terrible.
Eval, t'as pas dit bonjour? Eval, je suis là. J'ai dit bonjour. Je suis là.
Bolton, Tuffer, Belcott, Lefer, Bell.
Sans ouf, tous les jours, tous ces gens font que j'entertaine. Pour des ous, pour des sourires, j'entertaine. Crois pas que c'est facile, faut de la gamberge, mec. Mais tranquille, j'ai bac scientifique comme Jean-Pierre Sec. Ouh, j'arrive bien, ça sent l'air fraîche. Fais pas le ouf, tes masques, tes gobelles prennent. Bah, bah, bah. T'es même pas mort, on t'enterre seul. Arrête ton cinéma, tu vas prendre perpète. Hey, je leur fais du mal, pourtant elles reviennent. Parce que je leur fais trop de bien quand j'entertaine. Je suis venu accomplir de grandes merveilles. Je me barre, je te laisse dans ta paupère pleine. Ouh. Trop hardcore pour Bandersion.
Comment est-ce qu'il faut comprendre ce titre, J'entertain?
C'est à la fois le miracle de se donner toujours en spectacle et d'avoir toujours cette force de se donner en spectacle et en même temps la tragédie, tu vois. On n'est pas là pour jouer un spectacle toute notre vie et tous les jours, tu vois. Et J'entertain parle vraiment de ça, c'est l'enfer et la bénédiction de faire du spectacle, quoi. Je trouve que j'entertaine parle beaucoup plus de mon quotidien avec des gens qui me parlent quand c'est pas du rap que par rapport au rap, tu vois. Quand c'est du rap, c'est que je fais le spectacle pour du rap, c'est très bien, tu vois, c'est mon métier, je comprends, tu vois, dans des événements ou des trucs comme ça, tu vois. Mais ça va être vraiment dans la vie de tous les jours, tu vois, avec dans ma vie privée, quoi, les gens qui me parlent. Putain, je me sens obligé de, et quand je dis faire le spectacle, c'est pas, je fais pas le clown, tu vois, mais je suis très à me forcer à être sympa, à être rigolo, à écouter les problèmes des gens, à les résoudre, quoi, tu vois. Tu sais, c'est un effort, quoi. C'est un effort. C'est à la fois dramatique et génial. Ouais.
Bénéfice, c'est le premier mot du disque dans le titre Primitif. On a l'impression que Primitif, c'est à la fois la façon dont on se juge et justement essayer d'être tout le contraire.
Oh, de ouf, à mort, à mort, à mort. Et puis de toute façon, tout le morceau répond à ce premier mot, tu vois. Bénéfice, première pensée, toujours primitif. C'est ça qu'il faut battre, quoi. Parce que genre vraiment, quand on se laisse aller et qu'on veut être spontané et genre super naturel et YOLO, toutes nos pensées sont basses. Et ça, c'est à cause de la conscience générale, c'est à cause de tout le monde, ça. Tout le monde pense trop bas. Du coup, quand tu te laisses aller, tu penses bas. Mais du coup, non. Les vrais et la nouvelle civilisation se forcent à penser haut et à être tout le temps bien et à ne pas penser comme un trou de balle de sauvage primitif.
Bénéfice, gang gang, bénéfice. Première pensée, toujours primitive. Générer du bif, c'est pas difficile. Jour de paix dans ce camp Billie Jean. Aïe aïe, plaisir illicite. Timide, je deviens émotif. Je regarde le ciel, c'est motif. Aïe, à chaque instant c'est possible. Mais à chaque instant l'emoji pleure. Que de la violence sur le moniteur. Ça touche les gosses comme les moniteurs. L'argent, ça démolit le cœur. Quand ça manque, ça démolit le cul. Suce pas pour plus de pécule. J'y bats dans mes bottes, y'a plus de PQ. Merde, primitif. Putain, ce que je suis primitif. Mort vivant comme les Didi. Tu fais un milliard comme P. Didi. Y'a que les nuages qui limitent. Je fais gaffe, y'a des gosses qui m'imitent. Enfoiré, t'es si fini. Tu mérites la syphilis. Parle pas de maléfice lorsque t'as merdé, lorsque le mal est fait. Wesh, le tavernier, je vais prendre l'allée feu jusqu'à me flinguer la vessie. Arrêtez les larmes, c'est pathétique. Arrêtez de vivre dans une tragédie. Visez autre chose que les ascétiques. Avec la conso dans les ATMI. J'dogging synthétique, putain, jogging synthétique, ouais. Produit synthétique, fossile synthétique, tous deux synthétiques, sauf mon profil atypique. Qu'importe le cas, je suis pacifique. Suis-je le seul érudit du carré VIP? J'vois les rubis quand on s'affilie et le continent mue dans le Pacifique. Wow, ton cas vu tombe comme un handspinner. J'ai fait mon destin sans Ghost Reader. Ça bouchonne au drive quand la dope circule. Je crache la fumée, ça fait des crop circles. C'est quoi ce monde qu'on laisse à nos petites sœurs? Une grosse bite sur un post-it et des tournements de fond dans les gros titres. Non, j'suis de la nouvelle civilisation. Tu vas finir à la rue, c'est la meilleure intimidation. T'en oublierais ton élévation. Mais fuck cette merde, je vais bosser sec. Que bien avant mes 37 piges, je sois proche des maîtres avec une breadline. Je ne répète que la prophétie. Primitif, j'suis encore trop primitif. J'mange des animaux sur tes amigos, j'pisse comme un vrai parigo. Vodka paquito pour paniquer ces clowns, échapper du chapiteau.
Il y a une dimension dans ce que vous faites, Vald, qui est ouvertement dérisoire, drôle, et qui est beaucoup plus rare ici, en fait, dans The. Je pense que dans les 6 premiers morceaux, ça a quasiment complètement disparu. Ça réapparaît au milieu du disque, avec Jean Tertaine, où on voit le nom de Sullivan, qui est un de vos alter ego, réapparaître. Il y en a un qui est très court. Ne me déteste pas, je t'ai mis de côté quelques fois, souvenir enfoui quelque part. Mm-hmm. Ça s'adresse à qui?
À toutes les femmes qui sont sorties de ma vie, bien sûr. Toutes. Et puis, de manière plus générale, aux gens qui veulent me détester, naturellement. Ouais. Des fois, moi, je suis touché un peu par des commentaires et tout ça, ou des trucs, et je me dis, mais pourquoi ils me détestent? Ils pourraient pas simplement m'ignorer ou essayer de me comprendre? Non, les gens détestent, quoi. Ils sont, tu sais, dans l'hostilité et tout. C'est la première raison du somme, hein. C'est les gens qui me ressemblent et tout, qui me détestent. Je comprends pas, j'ai envie de les tuer. N'en parlons pas plus. Ça m'énerve tout seul.
Il y a un détail qui fait vrai, il y en a beaucoup, mais un parmi d'autres dans le disque qui m'a interpellé, c'est les cuillères de poudre de lait qu'il faut remplir.
Oh, à ras de la dosette. T'es incroyable. Tes parents? Bah voilà, il y a que les vrais qui savent ça, bien sûr. T'as gars dans la chaussette. Poudre de lait à de la dosette, incroyable, bien sûr. Moi j'ai connu ça. Ça m'a traumatisé, cette espèce de moyen de dosage incroyable et infaillible. À ras de la dosette.
Qu'est-ce que ça change, la paternité?
Waouh, qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose. Ça te permet de voir des trucs, de prendre de la distance. Tu comprends beaucoup de choses avec un enfant. Tu comprends beaucoup de choses. Ouais, bah, ça change toute ta vie, puisque tu comprends la vie différemment avec un enfant, tu vois. Ça adoucit les gens, c'est sûr que ça adoucit les gens, parce que d'un coup, tu te mets... Moi, ça a été très clair pour moi, tu vois, que genre, c'est la première fois que j'ai aimé quelqu'un d'autre que moi, tu vois, c'est abusé. Je trouve ça tellement fort, quand je l'ai remarqué, tu vois, c'était tellement... Waouh. Ouais, vraiment s'oublier, quoi. Se mettre en danger pour quelqu'un, oublier son temps pour quelqu'un, c'est incroyable quand même. C'est incroyable.
Vous avez parlé d'avenir, puisque aujourd'hui le rap se construit beaucoup dans le passé. On voit des groupes comme NTM ou Secteur A qui se reforment. Et il est beaucoup question de timing. Vous parlez beaucoup de votre âge. Vous dites il faut que j'arrive à quelque chose avant mes 30 ans, avant mes 37 piges. Dans 10 ans ou 20 ans, il est où, Vald ?
Dans la prod. À mort dans la prod. Dans 10, 20 ans, soit j'ai assez d'inspi pour être toujours sous les projecteurs, soit je serai juste derrière. En fait, je serai juste derrière. J'aurais mis un petit à moi. Ou mon suis comblazadé, je l'aurais mis devant et que je serais derrière lui, c'est sûr et certain. Dans 10-20 ans, je suis dans le milieu, je suis pas loin. Ouais, je suis un pilier. Bien sûr.
Après le rap burlesque, il y a un critique de Télérama qui vous a trouvé un deuxième qualificatif en vous. C'est Erwan Perron.
Je t'aime, Erwan.
Ils vous comparent à un Bobby Lapointe moderne.
C'est terrible. C'est terrible parce que le premier mot qu'il emploie pour me qualifier, c'est burlesque et je suis un peu pas sûr de la définition. Mais alors là, Bobby Lapointe, je sais pas c'est quoi. Et c'est, je sais pas c'est qui, donc
vous... Vous n'avez jamais écouté Bobby Lapointe ?
Non, malheureusement, je sais pas c'est...
Ce soir, au bar de la gare, Igor Agar est noir, il n'arrête guère de boire, car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter, sa Katia l'a quitté. Il a fait chou blanc, ce grand duc, avec ses trucs, ses astuces, ses ruses de russe blanc. Ma tactique était top, dit Igor, qui s'endort, ivre mort, au comptoir du bar.
Ah ouais, non, mais là, c'est trop, je comprends, bon, maintenant je vois c'est qui le Bobby, mais il est beaucoup trop technique, il est beaucoup trop technique, et je rappelle comme ça il y a 8 ans, vraiment, quand je découvrais la discipline, on va dire, et toutes ces rimes, la takati, kapa, kite, akoka, ça va, ça dégage, Bobby Lapointe, je veux plus entendre, mais c'est stylé, mais en même temps c'est insupportable. Et un côté, j'aime bien quand Raymond Devos fait des jeux de mots comme ça, mais en musique, en fait, c'est insupportable. Moi, je déteste faire ça. Ouais.
Pourquoi c'était important la technique dans votre phrasé précédent, Vald ?
Je sais pas, encore aujourd'hui, hein, c'est très important, mais je suis très loin, en fait. Des je vais m'amuser à faire ça sur deux lines, on va dire, pour un espèce de clin d'œil à tous ceux qui savent que je sais le faire et qui aiment ça, mais en fait, je m'en bats les couilles. Ouais, j'aime très peu ça, même accélérer. Oh, je trouve ça... Ah, oh, c'est nul. Ah, oh, c'est nul. Je préfère vraiment les voix appuyées. J'aimerais tant faire la paix. Ça, c'est incroyable.
Comment est-ce qu'il faut comprendre la fin de l'album ? Devient génial.
Comment il faut la comprendre ? Il faut la comprendre comme Dieu qui s'adresse à Jésus et qui lui dit « Mon fils, devient génial. » Incroyable, bien sûr. C'est notre petite voix intérieure, tu vois. Si c'est Dieu qui parle à Jésus, si c'est toi-même qui te parle à ton conscient, c'est toi. Si c'est toi qui parles à ton fils, c'est la même chose. C'est toi qui te répète tous les jours. Deviens génial. C'est ce qu'on se dit tous les jours. Qu'on est obligé, on est forcé.
Ouais. Merci Vald.
C'était un plaisir.
Gang, gang, gang.
Deviens génial. Deviens génial, deviens génial. Tu ne sais pas encore l'enfer qui t'attend. Le regard des uns, le rejet des autres. Si t'es bizarre, si t'es pas marrant, deviens génial, deviens génial. Deviens génial, deviens génial. Pourquoi t'aimerais-il seulement comme tu es, hein? Si t'es pas comme eux quand t'es naturel. Deviens génial, deviens génial. Fais-les t'envier, fais-les te regarder. Fais-les trembler, fais-les rêver. Que ce soit une chance de venir te parler. Deviens génial, deviens génial. S'ils peuvent pas t'utiliser, que vont-ils faire? Laisser dans un coin te regarder travers. Avec le temps tu vas devenir amer. Pour l'unité faut des ennemis communs. Une tête de turc pour se faire des copains. Faut bien rigoler, faut bien des potins. J't'en prie bébé, ne viens pas l'ennemi commun. J't'en prie force-toi, fais-toi des copains. J't'en prie bébé, ne fais pas les potins. Pour ça pas le choix, faut devenir génial. Deviens génial, deviens génial. Deviens génial, deviens génial. Tu ne sais pas encore l'enfer qui t'attend. Le regard des uns, le rejet des autres. Si t'es bizarre, si t'es pas marrant. Deviens génial, deviens génial. Deviens génial, deviens génial. Pourquoi t'aimerais-t-il seulement quand tu es, hein? si t'es pas comme eux quand t'es naturel. Ne deviens pas comme eux mais reprends leur gimmick. Crois pas que je valide, c'est juste que j'anticipe. Je vais changer les règles mais tu grandis vite. Ne deviens pas comme eux mais reprends leur gimmick. Mets-toi à l'abri, fiston, faut t'anticipe. Je vais changer les règles mais tu grandis vite. Deviens génial, deviens génial. Deviens génial, deviens génial. Deviens génial, deviens génial. Deviens génial, deviens génial.
Devient génial. On va suivre le mot d'ordre de Vald, bien sûr, et qu'on peut retrouver dans son album Xe. Merci à vous, Sofian Fanen.
Merci.
D'être venu pour parler aussi, en première partie d'émission, de ce livre Boulevard du Stream, du MP3 à 10h. La musique libérée, c'est chez Castor Music. Et puis, on peut vous suivre et suivre cette fête du stream sur le site d'information Les Jours. Toutes les informations et la programmation musicale de l'émission sont à retrouver sur la page de Continent Musique, sur franceculture.fr, ainsi que la réécoute et le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et vous recevrez tout. Continent Musique vous est proposé par Mathieu Conquet avec la collaboration de Pascaline Bonnet, réalisation Olivier Guérin, à la prise de son ce soir Clément Daté. Les programmes continuent sur France Culture avec Samedi Noir à 21h. Bonsoir.